Principe actif.
Je sais pas ce qui passe dans le poste là tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Donc, non, mais on passe à l'antenne. Moi, je vois sur les vue-mètres. Voilà. Excusez-nous pour les petits soubresauts. Donc, je disais, excusez aussi ma voix. Il y a des bronchites, il y a des choses bizarres qui traînent en ce moment. Donc, moi, j'en ai récupéré une. J'avais une extinction de voix. C'est revenu un peu, mais bon, c'est pas la grosse forme. Il y a Sabine qui est morte de rire en face de moi. Et donc, il n'y a pas que Sabine qui est morte de rire. D'ailleurs, il y a Mina. Bon, alors, on fait les présentations comme on fait tous les mois. Donc, avec moi ce soir. Et j'espère qu'ils vont m'aider autrement qu'en riant devant les problèmes techniques. Il y a Mina et il y a Sabine. Et voilà. Donc ce soir, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas comment on peut. Je sais pas ce qui passe à l'antenne là pour être précis. Donc voilà. Non, mais normalement c'est bon. Mais on va baisser un peu le. Voilà. On va baisser un peu le tapis. Donc ce soir, on va commencer notre émission par l'actualité dont vous avez forcément entendu parler ces dernières semaines, qui est l'actualité en Côte d'Ivoire. Il y a effectivement eu beaucoup d'événements suite aux élections présidentielles et au maintien au pouvoir de deux présidents, le président sortant apparemment battu et le nouveau président apparemment élu. L'un et l'autre voulant pour l'un conserver le pouvoir et pour l'autre y accéder. Je cherche à régler, mais j'avoue que j'arrive pas à régler mieux. Ouais, je pense, oui. Donc voilà, l'actualité de la Côte d'Ivoire nous ramène à un phénomène qui est assez connu du public français qui s'appelle la France-Afrique. C'est-à-dire toutes les relations un peu troubles et même très troubles qu'il y a entre la République française et ses anciennes colonies. Et je suis tombé un peu par hasard sur une excellente émission qui est passée sur France 2 et qui m'a fourni l'essentiel de ce que je vais vous raconter ce soir. Cette émission a été diffusée fin novembre et s'appelait La France-Afrique. Si vous avez l'occasion de la revoir sur l'antenne de France 2 ou ailleurs, n'hésitez pas, c'est une excellente émission, extrêmement bien faite, extrêmement pédagogique et qui apporte un éclairage tout à fait intéressant sur le fait que l'Afrique n'arrive toujours pas à accéder à un état de respect des droits humains satisfaisant et n'arrive toujours pas à accéder à des régimes démocratiques satisfaisants. Donc c'est un petit peu énervant quand même ce qu'on entend dans le casque là, et je sais pas du tout comment on peut supprimer ça, parce que là moi ça me perturbe. Je sais pas. Il y a quelque chose qui passe derrière, je sais pas si vous l'entendez à l'antenne, mais moi c'est j'entends. Non, c'est pas ça, non. Non, c'est quelque chose qui passe en boucle, mais je sais pas du tout. Ouais. Mais je sais pas si. Non, encore une fois, je sais pas si ça passe à l'antenne ou s'il y a que nous qui l'entendons, j'en sais rien. T'as pas la souris là, pour accéder, pour faire un stop là. Ici là, ici. Essaye d'appuyer sur stop ici. Voilà. Ça change rien. Non, c'est pas ça. Bon, faut qu'on continue parce que là c'est... Voilà, on va... Bon, bref. Donc, le phénomène de la France-Afrique, en juin 2009, ont eu lieu les obsèques d'Omar Bongo au Gabon. On va remonter un petit peu dans l'histoire. Et après, on va parler effectivement de certains pays d'Afrique et de certaines dates d'histoire. Si je retire le casque, vraiment, j'aurai peut-être moins de parasites. Hein. Je suis vraiment désolé, mais c'est très pénible d'avoir un son dans les oreilles qui fait que je m'entends très très mal. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, problème est réglé. Donc, c'était un bouton qui était mal descendu sur la console. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, en juin 2009, ont eu lieu les obsèques d'Omar Bongo au Gabon. Les autorités françaises ont défilé pour se recueillir au moment des obsèques. A eu lieu après sur ces obsèques les élections présidentielles en août 2009 pour sa succession. Monsieur Sarkozy, qui était présent aux obsèques d'Omar Bongo, a déclaré que la France n'avait pas de candidat préféré pour la succession de monsieur Omar Bongo. Les résultats des élections, tels qu'ils ont pu être définis par l'ONU, ont abouti au résultat suivant. Monsieur Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, ancien président, a obtenu 38% des suffrages. Et M. Obame, principal opposant, a obtenu 42% des suffrages. C'était un vote, bien évidemment, à la majorité relative. A donc été déclaré élu M. Ali Bongo. Donc déjà, effectivement, on voit qu'il y a non-respect du résultat électoral. Pour comprendre ce genre de situation, il faut remonter un petit peu en arrière. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ex-empire colonial français est secoué par une vague de volonté d'indépendance. Le général de Gaulle, qui revient aux affaires politiques en 1958, décide d'édicter un nouveau statut, qui pour lui ne signifie pas véritablement indépendance, mais aboutira à un nouveau statut de ces pays qui sont d'anciennes colonies françaises dans l'Afrique occidentale. Oui, Sabine ? Ah oui, d'accord. Le but de ce nouveau statut est de faire qu'en fait, les ressources énergétiques des anciennes colonies françaises dans l'Empire occidental africain français, que les ressources énergétiques soient toujours effectivement propriété française. On va donc aboutir à une situation où les régimes sont entre guillemets indépendants, mais de fait extrêmement liés à l'ancienne puissance colonisatrice. Pour faire ça, il nomme le général de Gaulle, donc toujours dans les années 58-60, nomme M. Pierre Guillemot à la direction des carburants. Parce que, évidemment, la principale source énergétique qui intéressait l'État français était les hydrocarbures. M. Guillemot fonde la compagnie Elf, dont on entendra effectivement beaucoup parler par la suite. Jusqu'à présent, le pétrole vient principalement d'Algérie. Or, en 62, avec l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie décide immédiatement de couper l'approvisionnement en pétrole auprès de l'ancienne puissance coloniale. À la suite de ça, Elf voit donc la nécessité de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. On commence à découvrir entre autres du pétrole au Gabon et ailleurs le long de la côte africaine. Et il se tourne vers ces anciennes colonies françaises, entre guillemets anciennes, parce qu'elles ne le sont. Leur indépendance, encore une fois, est tout à fait contestable. L'État français, dans la bouche de M. Guillemot, dit que le besoin de stabilité politique doit assurer l'approvisionnement énergétique et donc il est indispensable que Elf devienne le bras armé de l'État français. Là, ce sont aussi les paroles de M. Guillemot à l'époque. Pour continuer sa politique, le général de Gaulle le nomme Jacques Faucard, qui est un ancien résistant et qui l'a soutenu lors de son retour au pouvoir en 1958. Et comme spécialiste des affaires africaines, et M. Faucard crée la cellule africaine de l'Élysée, dont on aura aussi beaucoup parlé par la suite. Avec 100 collaborateurs, cette structure relativement informelle tisse des liens secrets entre Paris et l'Afrique, sans contrôle parlementaire ni étatique. Une des personnes qui a été responsable pendant longtemps de cette cellule, un peu le numéro 2, est M. Maurice Delaunay, qu'on a vu longuement interviewé dans l'émission, qui est un homme de Faucard et qui lui-même est issu de l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il insiste sur le fait que M. Faucard, à l'époque, n'a aucun statut officiel, ne touche aucun salaire de l'État et a donc parfaitement les mains libres par rapport à ses agissements. M. Faucard utilise également les services secrets, qui s'appelaient à l'époque le SDEC, le SDECE, le service de contre-espionnage pour aboutir à mettre en place sa politique. Et il a affaire à une personne dont on va entendre parler aussi par la suite, qui s'appelle M. Maurice Robert, et qui est un ancien militaire, et qui va en fait être le relais au niveau du SDECE de cette cellule africaine de l'Élysée. Parmi les directives qui sont mises en place, il y a bien évidemment la défense des régimes en place, africains, dans la mesure où ceux-ci effectivement obéissent aux ordres venus de Paris, les recommandations de certaines personnes politiques, comme par exemple ce genre de commentaires qu'on a entendu à l'époque, ce président ne vaut pas un clou, il faut l'éliminer, texto. En 1958, alors il y a différents exemples historiques qui ont été cités à la suite de la formation de cette cellule élyséenne. En 1958, donc un tout petit peu avant la déclaration de De Gaulle vis-à-vis des pseudo-indépendances des anciennes colonies africaines, M. Sékou Touré, président, déclare l'indépendance de la Guinée. Prenant de court le général De Gaulle, celui-ci n'apprécie pas du tout la conduite de Sékou Touré, qui a brûlé les cartes avant que celui-ci, effectivement, avant que le général De Gaulle accepte l'indépendance. Donc il n'apprécie pas du tout la plaisanterie et il fait intervenir cette cellule nouvellement créée de la politique africaine de l'Élysée. Le président Sékou Touré donc de Guinée se rapproche des pays de l'Est pour trouver des appuis économiques, ce qui fait que les USA apportent leur soutien à la cellule élyséenne de l'Élysée pour limiter entre guillemets l'expansion communiste. En 1960, la Guinée crée sa monnaie et la France inonde la Guinée-Bissau, de fausses monnaies, en vue de ruiner l'économie du pays, ce qu'ils arrivent relativement bien à faire. Malgré tout, le régime de Sékou Touré se maintient. À la suite de ça, la France décide d'armer, bien évidemment toujours à travers cette cellule et sans aucun contrôle parlementaire ni aucun contrôle démocratique, décide d'armer l'opposition politique à M. Sékou Touré, toujours en vain. Autre pays, le Cameroun, qui devient indépendant en 1960. Monsieur Maurice Delaunay, dont on a entendu parler comme étant co-responsable de la cellule de l'Élysée, est chargé de trouver un nouveau président. Il conseille de nommer Monsieur Amadou Ahidjo, on m'excusera la prononciation, qui est donc un politique local particulièrement sensible à l'influence de Paris. Le principal parti d'opposition, qui s'appelle l'UPC, décide de se présenter aux élections à venir, et son leader, qui s'appelle Félix Mounier, vient en voyage en Suisse, croyant rencontrer un émissaire de l'État français. En fait, il rencontre un émissaire des services secrets et ce monsieur l'empoisonne purement et simplement en Suisse en 1960 également. Le général de Gaulle est parfaitement au courant de ce genre de procédé, mais il décide effectivement de fermer les yeux et de faire semblant qu'il n'est au courant de rien. Au Gabon, M. Léamba, qui est un président potiche, lui parfaitement effectivement aux ordres de Paris, il est encadré par M. Jacques Pigot, qui dirige l'administration de son pays, et qui se permet même de nommer les ministres en place qui sont après présentés à M. Léamba. Et il devient également l'informateur de ce qu'on appelle maintenant les réseaux Focard, donc qui sont les réseaux issus de la cellule africaine de l'Élysée. Et il faut savoir que 50 ans après, M. Pigot a toujours son bureau à la présidence gabonaise. Le 9 février 64, il y a un coup d'État contre M. Léamba, donc au Gabon. Et selon les cas, il faut bien voir que la France, soit elle provoque, soit elle combat, soit elle laisse faire les coups d'État, selon la docilité des intervenants. Toujours effectivement pour pouvoir se servir sans vergogne dans les réserves énergétiques des pays, à commencer par le pétrole. M. Maurice Robert, toujours le correspondant auprès des services secrets de cette cellule, intervient au Gabon avec l'accord de De Gaulle pour rétablir M. Léamba. À la suite de ce rétablissement, des clauses secrètes sont signées, spécifiant de façon très 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 claire que les matières premières seront échangées contre la sécurité anti-subversion dans ces pays. Les réseaux Focard ont la faculté de désigner aussi les ambassadeurs. M. Léamba malade. Quelques années après, M. Léamba malade décide de modifier la constitution, toujours sur les conseils de Paris, pour nommer un vice-président, M. Omar Bongo, qui se verra bien sûr élu président de la République lorsque M. Léamba va quitter le pouvoir, M. Omar Bongo étant déjà à l'avance aux ordres de Paris. Donc, selon ses intérêts, la France soutient les dictateurs, les présidents qui sont indifférents au pillage de leurs ressources, et Elf devient omniprésent en Afrique. Au Biafra, bon, certains d'entre vous ont entendu parler effectivement des événements au Biafra à la fin des années 60. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la province du Biafra est une province elle-même riche en pétrole et qui avait déclaré son indépendance par rapport à l'État nigérien donc à la fin en 1967 et 1968. Le Nigeria est une ancienne colonie anglaise et non pas française. Cependant, De Gaulle, comme il est toujours intéressé par le pétrole, décide de soutenir le Biafra nouvellement indépendant. Pour ce faire, l'État français, toujours via la cellule élyséenne de l'Élysée, via les services secrets, etc., arme le mouvement d'opposition biafrais, qui se livre donc à une guerre civile contre les autorités nigériennes. Malheureusement, le rapport de force est complètement disproportionné et assez rapidement, les forces biafraises se retrouvent encerclées et battues. Ce qui n'aura pas empêché au passage une famine importante parmi la population biafraise. Ça aussi, ceux qui se souviennent de ces événements s'en rappellent. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, le fait d'avoir armé la rébellion biafraise n'a fait qu'aggraver la guerre civile et donc aggraver le nombre de morts qu'on a estimé après, j'avais noté le chiffre quelque part, à 1 million voilà, de civils tués pendant cette guerre. Donc la France a armé de façon parfaitement illégale la rébellion biafraise, et comme effectivement ça ne marchait pas très bien, la presse française, toujours sous les ordres de la cellule élyséenne, la cellule africaine de l'Élysée, a décidé à la fin du conflit de considérer que le conflit biafrais était un génocide, ce qui était parfaitement faux, c'était une guerre civile, ce qui n'a rien de propre, mais c'était en aucun cas un génocide, mais le fait de dire que c'était un génocide était plus, entre guillemets, vendable par rapport aux mains sales des autorités françaises dans cette affaire. En 1974, donc on fait un saut dans le temps, bon, M. Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République. On peut imaginer qu'il va changer de politique et il va changer de façon de faire avec la cellule africaine de l'Élysée. Malheureusement, il ne se passe absolument rien. Il remplace M. Focard par un de ses principaux soutiens, qui s'appelle M. René Journiac, et qui retourne au Gabon, à la demande de M. Gambo. Donc la France, ce qu'on appelle la France-Afrique continue. Au Bénin, il y a également une opération commando dirigée par un certain Bob Denard, ce nom-là aussi vous dira quelque chose, pour renverser le président pro-communiste. Malheureusement, cette opération est un fiasco qui est rejeté par l'armée régulière béninoise. Au Congo-Brazzaville, en 1979, M. Sassou Nguesso accède au pouvoir par un coup d'État. M. Sassou Nguesso est d'obédience plutôt communiste. Riche en pétrole, le Congo-Brazzaville intéresse beaucoup la compagnie Elf, qui est dirigée par M. Albin Chalandeau, et qui décide de négocier avec M. Sassou Nguesso pour pouvoir continuer à avoir la haute main sur les ressources pétrolières. M. Martin Kirsch apparaît comme un nouveau conseiller dans les réseaux Focard et remplace M. Journiac à cette cellule qui était mort accidentellement. Monsieur Maurice Robert, dont on a entendu parler tout à l'heure, en tant que correspondant auprès des services secrets, est embauché par ELF. Donc on voit bien aussi effectivement la collusion entre les sphères civiles, économiques et les services secrets. Il devient aussi ambassadeur au Gombo et les réseaux continuent. En Centrafrique, pendant la présidence de Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Bokassa, qui était arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1965, s'auto-sacre empereur en 1979. C'est un véritable, c'est une farce macabre que cette autonomination. Monsieur Bokassa avait voué une admiration sans borne à Napoléon Ier. Bon, malgré tout, ce sacre est très très mal perçu par les pays africains environnants. Il faut préciser quand même que ce sacre a été payé entièrement par la France, ce qui dit bien effectivement l'état des relations et l'état de dégradation des relations, si on peut dire. Et M. Bokassa, donc, qui est lâché par les pays aux alentours de la République centrafricaine, décide de se rapprocher de la Libye de M. Kadhafi, ce qui déplaît forcément aux autorités françaises qui n'ont pas M. Kadhafi à cette époque-là en bon terme. La France décide donc d'intervenir pour carrément destituer M. Bokassa après quelques mois d'empire. C'est ce qu'on a appelé l'opération Barracuda. Et qui remet au pouvoir M. David Dacko par des moyens parfaitement illégaux, même si, encore une fois, le couronnement était un macabre spectacle. À la suite de quoi, le canard enchaîné déclenche une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est les affaires du diamant, comme quoi Valéry Giscard d'Estaing aurait bénéficié de très larges cadeaux de Bokassa. Mais bon, l'affaire sera étouffée, on ne saura jamais le véritable fin mot de l'histoire. En 1981, M. François Mitterrand est nommé président de la République, comme vous le savez, suite aux élections. Et là, la politique change un peu, c'est-à-dire qu'elle devient double. Excusez-moi. M. Jean-Pierre Cotte, le ministre chargé des Affaires africaines, prend lui des positions et des discours extrêmement favorables aux droits de l'homme, à la démocratie dans les pays africains, et semble marquer une rupture importante avec la politique précédemment menée. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que derrière le discours, d'ailleurs, M. Cotte excusez-moi, Monsieur Cotte ne restera que 2 ans au pouvoir, au pouvoir en tant que ministre. Et rapidement, en fait, l'activité de la cellule élyséenne de l'Élysée reprend du poil de la bête, si je puis dire, et Monsieur Guy Penn, qui en est responsable, continue entretient la plus stricte continuité politique avec les mêmes magouilles politiques, les mêmes magouilles économiques et la même mainmise sur le pétrole. Monsieur Pierre Marion devient chef de la DGSE, qui a remplacé les services secrets. Mais lui, qui était plutôt assez favorable à une plus large autonomie de l'Afrique, ne parvient pas du tout à neutraliser l'activité politique occulte d'Elfe en Afrique. Quelques années après, M. Jean-Christophe Mitterrand, fils du président, devient chef de la cellule France-Afrique. Mais il n'arrivera jamais, en fait, à être considéré comme sérieux par ses intervenants africains, puisqu'ils le nommeront, en fait, M. Papa Madi. En 88, et avec la réélection de Mitterrand, se produit 2 événements qui vont avoir des conséquences sur la politique de la France-Afrique, qui est la chute du mur de Berlin et l'affaire Elf. Alors la chute du mur de Berlin, la conséquence, c'est qu'en fait le danger communiste, entre guillemets, dans les pays d'Afrique disparaît, puisque la sphère d'influence des pays anciennement communistes, effectivement, s'en trouve considérablement réduite. En France, l'argent du pétrole, via Elf, on en parlait tout à l'heure, faut savoir effectivement qu'à l'époque, Elf achète le pétrole à peu près 4 $ le baril aux pays d'Afrique et le revend 80. On imagine bien la marge que ça représente. Elle donc sert au financement occulte des partis politiques. En 81, la gauche, donc arrivée au pouvoir, se contente de superposer ses besoins financiers auprès d'Elf à ceux des partis de droite qui continuent à se servir. C'est-à-dire qu'Elf, en fait, à partir de 81, passe 2 fois à la caisse, une fois pour financer les partis de droite, une fois pour financer les partis de gauche. Monsieur Éric Le Floch-Prigent, là aussi un nom que vous connaissez peut-être, devient président d'Elf après 1988, et Mitterrand lui dit cette phrase qui est citée dans le reportage, Monsieur Le Floch-Prigent, ne nous oubliez pas. Les détournements atteignent de tels sommets que qu'éclatera l'affaire Elf en fait en 1994. Parce qu'effectivement, les détournements d'argent deviennent tellement importants que la justice ne peut plus fermer les yeux. La chute du mur de Berlin a une autre conséquence, c'est de favoriser en fait en Afrique de véritables élans d'indépendance et de démocratie. En 1990, Mitterrand, au sommet France-Afrique de La Baule, tient un discours dans ce sens, et extrêmement démagogique, qui parle de nécessité de respect des droits de l'homme en Afrique, de respect de la démocratie. Et sur place, ces paroles sont prises au sérieux puisqu'ont eu lieu toute une série de ce qu'on a appelé des conférences nationales qui permet aux oppositions effectivement de se manifester ouvertement et de réclamer des élections libres et démocratiques. Au Gabon, à cette époque-là, il y a le meurtre d'un opposant politique dont je n'ai pas retenu le nom, mais dont M. Bongo est accusé, qui va aboutir effectivement à des émeutes contre Elf à Port-Gentil. Pour la population gabonaise, elle est très consciente effectivement que l'alliance entre le Elf et la corruption dans le pays et le pouvoir dictatorial de M. Gombo, tout ça, ce sont effectivement des affaires qui sont extrêmement liées. Au Congo-Brazzaville, on n'a pas encore parlé, mais au Congo-Brazzaville, une nouvelle constitution démocratique, suite à d'une nouvelle constitution démocratique, M. Sassou Nguesso ne peut plus gagner les élections. Il ne risque pas, qui était l'ancien dictateur, ne risque pas de gagner les élections. Mais si c'est le cas, effectivement, s'il perd le pouvoir, Elf, il perdrait son pétrole, puisque des accords ont été menés avec lui. Monsieur Pascal Lissouba, représentant africain du moins à la demande d'Elf, est candidat avec Monsieur Sassou Nguesso et ensemble ils gagnent les élections. Mais Monsieur Lissouba décide de ne pas respecter l'accord avec Monsieur Sassou Nguesso et en gros de garder tout l'argent du pétrole pour lui. S'ensuit une guerre civile qui a eu plusieurs épisodes entre 1993 et 1997. Il y en a eu 3 en fait, entre les partisans de Monsieur Lissouba et les partisans de Monsieur Sassou Nguesso. Il faut savoir aussi que cette guerre civile a été directement ou indirectement financée par Elf. Monsieur Sassou Nguesso se décide de se rapprocher de l'Angola de M. Dos Santos. L'Angola est un pays voisin du Congo-Brazzaville. Et ce qui intéresse bougrement, encore une fois, ELF, puisque l'Angola se révèle aussi être un pays riche en pétrole. L'ELF décide donc effectivement directement de financer la répression dont se rend coupable M. Dos Santos, président de que je vous dise pas de bêtises, président de, je suis perdu dans mes notes, de l'Angola, bien sûr. Donc, président de l'Angola, qui réprime son opposition politique dans le sang, et ELF, effectivement, participe au financement de cette répression. À la suite de quoi, M. Dos Santos aide son ami, M. Sassou Nguesso, à revenir au pouvoir à l'issue de la Troisième Guerre civile. Là aussi, c'est la population, effectivement, civile et africaine qui en a fait les frais. Et donc, c'est la fin de l'agitation démocratique pardon, en Afrique. Et tout est revenu à la case départ. Le ELF continue à corrompre, les présidents africains continuent à s'en mettre plein les poches, et la cellule africaine de l'Élysée continue à fonctionner. S'ensuit donc dans les années 90 le procès ELF, où le juge Evangeli, qui en a la charge, montre qu'en 3 ans d'activité, l'équivalent de 6 mois de bénéfices de la société sont détournés en commission, rétro-commission et pots de vin divers aux chefs d'État et autres. L'État français, prenant peur devant l'étendue de ce scandale, décide en fait de purement et simplement démanteler la société ELF en la privatisant et en la bradant au groupe Total, ce qui va effectivement se produire et ce qui permettra effectivement d'étouffer plus loin les actions judiciaires, le seul qui en fait en paiera les pots étant le dernier président de ELF, monsieur le Floc Prigent. Bien, on va arriver à la fin du petit feuilleton, hein, je vous rassure tout de suite. Mais la disparition d'ELF en fait en Afrique fait que les rôles commencent à se retourner. Les rôles commencent à se retourner en Afrique et qu'en fait les pays africains commencent à être beaucoup plus entreprenants vis-à-vis de l'État français et cette cellule France-Afrique en fait dépendante de l'Élysée commence à voir les chefs d'État africains avoir le dernier mot par rapport à un État français qui lui commence à subir leurs desiderata. C'est un peu une inversion des rôles. En 1995, avec l'élection de M. Chirac, on voit revenir dans cette cellule M. Jacques Foccart, dont on a parlé précédemment, qui avait été remercié par M. Valéry Giscard d'Estaing, et qui revient donc aux affaires en 1995. Et comme il est assez âgé, il décède en 1997 et il est remplacé par M. Robert Bourgi, qui devient entre guillemets M. France-Afrique, mais sous l'aspect de messager de ses clients africains, qui sont en fait les États, à commencer par le Gabon de M. Bango. M. Bango, en fait, à ce moment-là, va commencer à influencer directement l'État français, et on sait maintenant qu'il a accepté ou refusé la nomination de certains ministres sous les gouvernements Chirac, en décidant que ceci n'était pas suffisamment, ou suffisamment ses copains. Sa principale arme, effectivement, pour en venir à ses fins, M. Bongo, outre la dictature sur place dans son pays, c'est le flot ininterrompu d'argent, effectivement, issu du pétrole, puisqu'il a récupéré la plus grande partie des bénéfices pour son compte, et que donc, effectivement, il arrose tout le monde, tous les politiques, effectivement, qui défilent dans son bureau lorsqu'il vient à Paris. Une des personnes qui subira une éclaboussure par rapport à ses financements occultes, c'est M. Bernard Kouchner, ce qui est quand même un petit peu embêtant vu sa stature et son image de marque, qui sera épinglé pour une étude qu'il a faite pour le gouvernement gabonais, une étude sur le développement du système de santé au Gabon, qu'il a fait dans les années 90. Il faut savoir que cette étude, elle a été faite par sa société de conseil et elle a été facturée 140 000 euros la page. Considérant que c'est un état où la population continue à souffrir de malnutrition, ça fait quand même cher payer. Surtout que ce que dit Eva Joly dans le reportage, qui est la juge Eva Joly, qui dit que cette étude aurait dû être menée par l'Agence française de développement et que donc dans ces cas-là, ça aurait été entièrement gratuit. En Côte d'Ivoire, et on va terminer sur cette actualité puisque ça nous ramène à l'actualité du présent. En Côte d'Ivoire, donc en octobre 2000, suite à la mort de M. Houphouët Boigny, qui était président autoproclamé aussi depuis l'indépendance dans les années 60, M. Laurent Gbagbo est élu président de la République en 2000. Ce n'est pas le président, lui, il se dénote parce qu'il n'est pas le président véritablement de la France-Afrique et il a une volonté d'indépendance qui est beaucoup plus marquée. La Côte d'Ivoire est riche, pas tellement de pétrole, même pas du tout, mais riche de cacao et de café. Et de nombreux coopérants français, effectivement, ils travaillent en toute bonne entente dans les années, depuis les années 60 et jusqu'aux années 2000. À la suite de son élection, des oppositions violentes ethniques commencent à apparaître en Côte d'Ivoire qui mènent à la guerre civile. La France refuse son soutien, puisque là, effectivement, dans le cas de figure, M. Gbagbo n'est pas dans la ligne de la cellule de la France-Afrique. S'ensuit une intervention de l'armée centrafricaine contre le QG de l'armée française le 4 novembre 2004, qui tuera plusieurs soldats français. À ce moment-là, la France décide d'intervenir en détruisant l'armée de l'air ivoirienne. Et s'ensuit aussi des émeutes, et l'armée française tire, faisant 67 morts et 1200 blessés dans la population civile ivoirienne. Évidemment, la population ivoirienne se révolte contre les autorités françaises. C'est facile à comprendre. Monsieur Laurent Gbagbo, président, devient le héros de l'indépendance, puisqu'il appelle à la levée du peuple contre l'ancienne puissance coloniale. Et il devient le héros de la jeunesse. Bon, depuis, son image de marque a bien changé. Parce que le partage suite à son maintien au pouvoir, le partage des richesses et la corruption, à la suite de ça, reprennent de plus belle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'Arétole en Côte d'Ivoire, figurent deux entreprises françaises qui sont toujours en très bon terme avec M. Laurent Gbagbo, qui est donc le président soi-disant battu qui refuse de partir à l'heure actuelle, qui soi-disant, parce qu'on ne sait pas très bien qui a véritablement gagné. Monsieur Laurent Gbagbo donc est très 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 en cheville, si on peut dire, avec deux sociétés dont les noms vous diront quelque chose. C'est les entreprises Bouygues et Bolloré, qui entretiennent de nombreux chantiers sur place aux frais de l'État ivoirien, évidemment. Et on retrouve effectivement dans ce soutien et dans cette présence économique de la France via des sociétés, monsieur Martin Bouygues et monsieur Vincent Bolloré, qui sont eux-mêmes des amis intimes de monsieur Nicolas Sarkozy. La boucle est bouclée. Depuis son élection, d'ailleurs, M. Nicolas Sarkozy n'a pas changé grand-chose. Il a reconduit M. Robert Bourgie, vous vous souvenez peut-être. Il y a eu beaucoup de noms de dit ce soir, je suis désolé, mais M. Roger Bourgie qui avait pris la suite de la cellule France-Africaine de l'Élysée. Donc il l'a reconduit dans ses fonctions. Et il l'a même gratifié de l'ordre de la Légion d'honneur assez rapidement après son élection. Je termine, Yamina qui me fait des signes. J'en ai encore pour deux petites minutes et c'est tout. Monsieur Omar Bongo, très ami aussi de Monsieur Sarkozy. Alors ça, c'est quand même, je voulais noter pour la fine bouche, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, si on peut dire. Monsieur Omar Bongo obtient de Monsieur Sarkozy une réduction de la dette de l'État gabonais, de la dette extérieure de l'État gabonais, de 80%. Quand on sait que c'est un pays qui est extrêmement riche en pétrole, que bien sûr la population ne bénéficie absolument pas de la richesse produite par le pétrole, que par contre tous les politiques français de droite comme gauche en ont largement bénéficié, l'État gabonais se retrouvant endetté, l'État français lui fait une remise de 80% en continuant à passer à la caisse pour bénéficier des largesses du président Bongo. C'est quand même une solution absolument remarquable. Monsieur Bongo ira effectivement jusqu'à demander la démission de Monsieur Jean-Marie Bockel, qui est le premier ministre nommé par Sarkozy pour les affaires africaines, et qui lui, par contre, tient des discours que n'aurait pas renié, disons, un ministre de gauche, en disant qu'effectivement l'Afrique continue à être colonisée indirectement et a besoin de respect de démocratie et de respect des droits de l'homme. Ça n'a pas duré longtemps, effectivement, Monsieur Bongo a obtenu sa tête. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, quand même, la France-Afrique, avec ce qu'on a appelé la France-Afrique, que je viens de vous décrire là, donc la corruption, les achats d'armes, les guerres civiles entretenues, le vol des richesses, la France-Afrique s'est trouvée dans une situation complètement inversée à l'heure actuelle et est beaucoup moins efficiente qu'elle ne l'était dans les années 60. De plus, en Afrique, effectivement, il y a maintenant la présence beaucoup plus marquée des Américains, des Brésiliens et des Chinois qui cherchent effectivement eux aussi à s'accaparer une part du gâteau. Et que donc la situation de l'État français est beaucoup plus ténue. Maintenant, les voyages de M. Sarkozy en Afrique sont beaucoup plus pour essayer de signer des contrats au coup par coup que pour faire une politique de grande ampleur continuant à permettre le pillage des ressources sur place. Bon, ce qu'il faut bien voir dans toute cette histoire, encore une fois, je vous recommande de voir ce reportage si vous avez l'occasion. Ça se regarde vraiment comme un thriller. Ce qu'il faut remarquer, nous, en tant que militants d'Amnesty, on peut se demander pourquoi on parle de tout ça, c'est assez politique tout ça. Oui, c'est assez politique, mais en même temps, ça a des conséquences. Ça a des conséquences en termes de droits de l'homme, ça a des conséquences en termes d'absence de liberté politique dans les pays sur place. Évidemment, des présidents qui sont nommés par des pays extérieurs ou qui sont maintenus au pouvoir par des pays extérieurs, c'est incompatible avec la démocratie. Donc, effectivement, ce sont des régimes autoritaires, pour le moins qu'on puisse dire, dans la plupart du temps. Ça a des conséquences sur la vie du citoyen africain, bien évidemment. Et quand on dit effectivement que l'Afrique n'arrive pas à accéder à la démocratie, il faut effectivement se poser la question pourquoi. Et effectivement, dans ce genre d'émission, on a une partie de la réponse. Je vais vous lire simplement pour finir, si je remets la main dessus. Voilà. Trois articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont effectivement tout à fait incompatibles avec tout ce qui a été fait par la France depuis 50 ans là-bas. Donc effectivement, c'est notre arme à nous. Donc c'est les conséquences et de dire on n'est pas d'accord à cause de ça. Article 3. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Quand il y a une guerre civile ou qu'on combat sa ville, ça ne s'applique pas. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Bien évidemment, ça ne s'applique pas non plus. Et article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Il est évident qu'à l'heure actuelle, les citoyens de Côte d'Ivoire doivent avoir un petit peu l'esprit amer s'ils relisent cet article. Donc nous, effectivement, en tant que militants d'Amnesty, on demande non pas une révolution politique, ça ne nous regarde pas en tant qu'organisation, mais on demande l'application des articles et de ces articles-là, et on s'aperçoit que tout ce qui tient ou tout ce qui a tenu à la politique de la France-Afrique est incompatible avec ça. J'ai beaucoup trop parlé, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, on a eu plein de problèmes techniques, et on vous passe un petit peu de musique.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Ô prédateur tentaculaire, ô boulimie monopoliste,
ô technocrate mercenaire,
quand la finance a ses artistes.
Au terrain de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf
se servent sur la pompe Afrique.
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général.
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent.
Quand Bolo se roule à tarper,
il ouvre une usine OCB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Je connais tous les moniteurs, richissimes, archi-corrupteurs. Y'a des armées, des œuvrés qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République.
France-Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs.
Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Thank you. C'est en écouler notre vache folle sur le marché du Nigeria. À 2 francs le kilo, c'est du bol, je pourrais partir au Bahamas. Mon banquier me trouve un peu pâle, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils.
Paradis, refuge planétaire,
pour portefeuille de mercenaires,
pour autres pilleurs de l'Afrique,
ou pour fumier démocratique. Elles ont belle gueule nos colonies.
Bizarre elf s'est fait griller.
Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Bien, donc retour sur l'antenne de Principe Actif. Je repousse le bouton du tapis, voilà. Ça y est, je commence à être expert en technique. Alors, on vient d'écouter Trio qui, avec un morceau qui s'appelle Pompe Afrique et qui était effectivement qui était sur le même sujet que ce qu'on vient de parler, la politique africaine de l'Élysée. Maintenant, c'est Mina qui va vous parler. Comme j'ai déjà beaucoup trop parlé, maintenant je vais garder le silence. Vas-y, Mina. On commence, Mina, parce que je m'aperçois que j'ai pas mis ton micro. Je suis désolé.
Vas-y. Ah, t'es sûr?
Donc,
ah oui,
sûr.
Effectivement.
Je suis sûr.
Je m'entendais,
Mina,
pour de faux,
voilà.
En fait.
Tu t'entendais pour de faux. Ça y est, c'est
d'accord.
Rétabli.
Donc, on tenait à te féliciter, Sabine et moi, de ton grand discours. C'était important. C'était important, mais long, tu nous étonnes de jour en jour, Didier. Mais on t'a laissé ton petit cadeau de Noël.
Ton petit quart d'heure.
Donc maintenant, on va profiter de notre quart d'heure
petit
à
quart
nous,
d'heure.
Parce que lui, c'était 2 fois 15 minutes. Et on va commencer par...
J'ai dit que je parlerai plus, alors je ne réponds pas.
Donc je vais vous parler du moratoire sur la peine de mort. Les Nations Unies votent en faveur d'une résolution visant à mettre fin aux exécutions. Amnesty International a exhorté mardi 21 décembre tous les États qui maintiennent la peine de mort à instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions, à titre de première étape vers l'abolition du châtiment. Cet appel intervient après que l'Assemblée générale des Nations Unies a souscrit le 21 décembre à une résolution appelant à un moratoire sur le recours à la peine capitale, la troisième depuis 2007. La résolution a été approuvée en séance plénière de l'Assemblée générale à New York. On a enregistré 109 voix pour, 41 voix contre et 35 abstentions. Le nombre d'États membres ayant voté pour a augmenté par rapport à la précédente résolution adoptée en 2008. Et le nombre de voix contre a sensiblement baissé, ce qui confirme la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort. Une fois encore, l'Assemblée générale de l'ONU a fait clairement savoir que les homicides prémédités commis par les États doivent cesser, a indiqué José Luis Diaz, représentant d'Amnesty International auprès de l'ONU à New York. Les pays minoritaires qui continuent à recourir à la peine de mort doivent immédiatement mettre en place un moratoire sur les exécutions, à titre de première étape vers l'abolition de cette négation absolue des droits humains. Lorsque les Nations Unies ont été créées en 1945, 8 pays seulement avaient aboli la peine capitale pour tous les crimes. Aujourd'hui, 136 des 192 États membres de l'ONU l'ont aboli en droit ou dans la pratique. Le Bhoutan, la République de Kiribati, les Maldives, la Mongolie et le Tonga ont modifié leur vote par rapport à 2008 pour se prononcer en faveur du moratoire. Autre signe d'évolution, les Comores, le Nigeria, les Salomon et la Thaïlande, qui avaient voté contre le moratoire en 2008, se sont aujourd'hui abstenus. Ces changements positifs dénotent une évolution encourageante vers l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. Nous espérons que ces États adopteront dès que possible des textes législatifs en vue de supprimer la peine capitale, a conclu José Luis Diaz. L'Assemblée générale de l'ONU débattra à nouveau de cette question fin 2012. Nous allons passer à Sabine.
Bonsoir. Fin 2012, d'ici là, beaucoup d'exécutions continueront. Je voudrais justement, à cette occasion, avoir une petite pensée pour Khadija Jaed, appelée également Shala, qui était en, ça s'est passé en Iran, elle a été exécutée le 1er décembre 2010. Khadija Jaed, épouse temporaire d'un footballeur iranien qui a été connu dans les années 80, a été exécutée mercredi 1er décembre 2010 à la prison d'Evine. Elle avait été condamnée à mort pour le meurtre présumé d'une épouse permanente, de l'épouse permanente de son mari. Après environ 8 ans, presque 9, derrière les barreaux, elle a été pendue à 5 heures du matin à la prison d'Evine. Mardi 30 novembre, la veille, Amnesty International avait appelé l'Iran à suspendre l'exécution, affirmant qu'il y avait beaucoup de bonnes raisons de penser qu'elle avait pu être condamnée à tort. Shala était famille d'une épouse permanente de son mari. La famille de l'épouse permanente de son mari ne lui a pas pardonné, ce qui aurait pu lui permettre de ne pas être exécutée. C'est le frère de la victime qui aurait poussé du pied le tabouret sur lequel elle se tenait pour l'exécution. En Iran, une personne reconnue coupable de meurtre n'est pas autorisée à solliciter une grâce ou une commutation auprès de l'État. Ceci constitue une violation de l'article 6.4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Iran est un État partie. La famille d'une victime de meurtre a le choix entre exiger l'exécution de l'accusé ou lui pardonner en échange d'une compensation financière, la Dija. Son avocat a été prévenu la veille de son exécution, alors qu'il le savait depuis début novembre. Elle était accusée d'avoir poignardé à mort Lale Sahara Kizan, épouse permanente de cet homme, le 9 octobre 2002. Au terme du droit iranien, un homme et une femme peuvent se marier de façon permanente ou temporaire. Dans le cas d'un mariage temporaire, le couple concerné peut contracter une union moyennant le versement d'une certaine somme d'argent à la femme et pour un délai déterminé, au-delà duquel le mariage est dissous. Un homme en Iran peut donc avoir jusqu'à 4 épouses permanentes et autant d'épouses temporaires qu'il le souhaite. Une femme, évidemment, ne peut être mariée qu'à un seul homme à la fois. Trouvez l'erreur. Khadija Jaed avait initialement été condamnée à mort. En juin 2004, elle avait avoué le meurtre au cours de 11 mois de détention préventive avant de se rétracter lors de son procès en déclarant « Tout le monde sait dans quelles conditions j'ai avoué », laissant craindre que ses aveux n'aient été obtenus par la contrainte, ce qui est une pratique courante en Iran. Nasser Mohamed Ghani, qui se trouvait à l'étranger au moment des faits, avait lui-même été soupçonné de complicité de meurtre et détenu pendant quelques mois. Il avait été libéré après que Shala a avoué le meurtre. Celle-ci avait également été condamnée à 3 ans d'emprisonnement. Son avocat avait demandé que l'ordonnance d'exécution soit réexaminée. En novembre 2005, le responsable du pouvoir judiciaire avait demandé un report de l'exécution pour que l'affaire fasse l'objet d'un nouvel examen. La peine capitale avait de nouveau été confirmée en septembre 2006, avant d'être annulée début 2008. Une nouvelle enquête a alors été diligentée et Shala a été condamnée à mort de nouveau en février 2009. Khadija Jaed a passé plus de 8 ans en prison. Amnesty International faisait campagne depuis 2005 pour que la peine capitale prononcée à son encontre soit annulée. Cette pendaison porte à au moins 147 le nombre de personnes exécutées en Iran depuis le début de l'année. En 2009, au moins 270 personnes avaient été exécutées en Iran. En matière de droit commun, le meurtre, le viol, le vol à main armée, le trafic de drogue et l'adultère sont passibles de la peine de mort en Iran, où les autorités estiment qu'une application sévère de la loi est indispensable pour maintenir la sécurité publique. Emprisonnée presque 9 ans, il semblerait que lorsqu'elle était en pleine conscience, elle n'avait pas avoué avoir commis le meurtre dont elle était accusée. Presque 9 années de souffrance dans le couloir de la mort. Nasser, son mari provisoire, donc, a quitté le pays après avoir regardé agonisante Chala pour sauver son honneur, dit-il, selon ses propres propos. Ce matin, Ali Al-Adbar Siadat a été exécuté à la prison des Vignes de Téhéran. Exactement pareil, arrêté en 2008, reconnu coupable d'espionnage au profit des services de renseignement israéliens, la Mossad. C'est l'honneur de l'Iran qui est dramatiquement remis en cause en continuant à abuser de telles pratiques. Voilà, on arrive en fin d'année, on parle de moratoire ailleurs, mais ça continue. En espérant que les actions continuent dans ce pays où ça n'est pas gagné.
Comme quoi, si on me permet quand même un petit mot, c'est que ce combat, effectivement, n'est pas gagné. Il ne s'est pas terminé, mais qu'on a, encore une fois, jamais été aussi près de le gagner, même si, effectivement, on reçoit régulièrement de mauvaises nouvelles d'exécution capitale. Mais on n'a jamais été aussi près de le gagner. Il ne faut surtout pas lâcher maintenant.
Tout Mina. À fait. Mina. Bah Mina, justement,
un petit
là,
point culturel.
Voilà, un petit point culturel. Mais du coup, cette fois-ci, vous n'aurez pas les résumés. Vous aurez juste les titres des livres.
4 minutes, on va dépasser un petit peu.
Non, quand même. On va dépasser un peu, mais pas trop, parce que ça dure longtemps.
Allez.
Donc, ce que j'ai lu en cette année 2010, qui n'est pas de sortie cette année, mais que j'ai aimé, qui parle de l'homme et du comportement de l'homme en général... Donc j'ai lu Le métier d'homme d'Alexandre Jolien à lire, très bien. Vite fait, je suis un anormal, on l'a dit assez. Je l'ai senti, les mouvements des yeux qui passent à l'examen, chaque parcelle de mon être me l'apprennent. Tel regard fixe le mien, puis descend. Là, précisément où se trouve la preuve qu'il recherche, il est handicapé. En gros, voilà, on voit que Alexandre Jolien, si je ne me trompe, c'est lui qui, à la naissance, le cordon ombilical était entouré autour de son cou, donc il a manqué d'oxygène à sa naissance, et du coup, il est toujours, je pense, tétraplégique. Et donc, le regard des gens sur le handicap, et comment lui, justement, a appris à être un homme et à vivre avec son handicap, et que ça ne soit pas un poids. Voilà. Donc un très beau livre et très court à lire, mais très, très intéressant. Et j'ai le bras, c'est vite pour... Ah oui, tu veux le lire? Oui, je te le prête. Merci. Je me disais, elle me dit de me dépêcher, mais non, elle veut le lire. Après, là, c'est vraiment burlesque, très marrant, mais encore très démonstratif de notre réalité en tant que consommateur. C'est Les tribulations d'une caissière d'Anna Sam. Donc en fait, c'est une étudiante qui a besoin d'un petit boulot, donc elle va être caissière. Et elle va voir les gens, comment ils se comportent en tant que consommateurs. Donc ça va du client qui arrive à 8h30 dès l'ouverture des portes, au client qui ne daigne même pas dire bonjour et garde son téléphone portable et est en discussion. Et la caissière devient une chose, une machine. Voilà. Moi, j'ai bien rigolé. Voilà, après, les livres d'Amnesty, là je les ai pas lus, mais c'est des conseils. Ta mère, du Brésilien Bernardo Carvalho, à lire. Un livre qui a été sorti, qui est sorti cette année par Amnesty, qui a été préfacé par Liliane Thuram sur le contrôle des armes. Donc le titre, c'est « Contrôler les armes ». Voilà.
Sans vouloir revenir sur mon sujet, le contrôle des armes, quand on voit le trafic qu'il y a eu en Afrique. etc., etc.
Mais tu y es quand même revenu à ton sujet. On croyait qu'on allait le faire taire, mais non, non mais il a bien, ses droits et
faut,
il va...
Il faut bien montrer qu'il y a un lien dans l'émission, qu'on la prépare. Donc il y a
quelque chose oui, qui se, Didier.
Qui allait structurer.
Non, non, mais c'était pas par rapport à ça que je répondais. Tu le sais. Une BD, c'est Gaza 1956 de Jo Sacco, qui est journaliste. Voilà. Et mon livre de l'année 2011 que je vous conseille de lire et que je n'ai pas encore lu, c'est pour ça que ça sera mon livre de l'année 2011, c'est Pourquoi êtes-vous pauvre de William T. Volman. C'est ça. Et ça, je vais vous faire le résumé, je vais vous le lire parce qu'il est très bien. Pourquoi êtes-vous pauvre ? En choisissant de poser cette simple et unique question de par le monde, à quelques-unes des innombrables victimes de la pauvreté d'ordinaire condamnées à l'anonymat des statistiques, William T. Volman a recueilli des réponses de nature à jeter sur un fléau planétaire, un éclairage permettant d'en prendre la juste et pleine mesure. Soucieux de ne laisser aucun schéma préexistant confisquer la parole vive des personnes qui l'interrogent et photographient, émancipé de l'attitude compassionnelle adoptée par ceux que les drames de la misère n'émeuvent qu'à distance, attentive aux détails qui pourraient échapper à un observateur trop pressé de formuler des conclusions définitives, l'écrivain brosse le portrait aussi inédit que subversif de la tragique communauté planétaire des pauvres. Cet ouvrage en forme de rencontre frontale et sans complaisance avec des individus auxquels William T. Volman restitue la dignité de leurs différences, a reçu en 2008 le prix du meilleur livre étranger, Yat Madeleine, dans la catégorie essai. Voilà. Comme quoi le combat aujourd'hui, c'est bien la dignité des gens. Et voilà pourquoi je vous conseille ce livre à lire pour cette année 2011. Pourquoi êtes-vous pauvre ? Voilà.
Un petit mot sur le marathon des signatures, Mina ?
Ah, j'ai le temps ? Oh oui, 20h05.
Oui, on nous a dit que les gens du Bouscan seraient sûrement en vacances, là, qu'ils ne feraient pas leur émission ce soir, apparemment. Donc on va déborder un petit peu.
Mais
ils
que
nous,
5 minutes.
Ils ne nous en voudront pas.
Donc le marathon des signatures, comme l'année dernière, on arrive à peu près au même chiffre. 1 million de signatures dans le monde. Voilà, la petite info. Et vu que j'ai un peu de temps, il y a un jeu de piste à la Villette. Donc vite fait, je vous le lire. C'est pour les sorties, mais c'est jusqu'au 3 janvier, donc c'est vraiment pour ce week-end, quoi. Pour la nouvelle année. Accroché aux structures métalliques des Folies dans le parc de la Villette, 22 photos de Reza viennent appeler quelques temps forts de l'actualité mondiale depuis 1980. Du regard lasse d'un soldat américain en Afghanistan à l'expression sceptique captée sur le visage d'un petit écolier kurde d'Iran, ces grands formats sont à découvrir au cours d'une balade, jeu de piste, dans les jardins de la Villette. Autour de ce parcours sont organisées différentes animations, dont des projections de films, des débats et des animations pour les enfants. Voilà. Donc, si vous voulez, allez voir cette expo photo à la Villette. Et ça serait super sympa qu'on finisse par les bonnes nouvelles avec Sabine. Allez.
On fait une pause musicale, on finit par 2-3 bonnes nouvelles. Puisqu'on a un peu de temps.
Profitons-en. Oui, mais pas moi.
Pas toi. Romina va nous quitter.
Voilà. Non, non, c'est juste faire les bonnes nouvelles, comme ça on
bon,
peut...
On fait plus de musique. En fait.
Et après, on fait une musique pour le dernier, en fait.
Si tu veux.
Allez. Allez, vas-y, Sabine.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de bombes. Justement, il y a eu une très bonne nouvelle, puisque... Amnesty International et Handicap International se sont réjouis de l'interdiction du financement des bombes à sous-munitions. Ça s'est passé en juillet 2010, donc une grande avancée. On va faire des petits résumés parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Un responsable de l'opposition a été remis en liberté en Gambie en mois de décembre. Le tribunal du Zimbabwe a acquitté un militant LGBT le 17 décembre 2010. Hein, c'est un militant qui défend les droits des lesbiens, gays, bisexuels et transgenres. Au Nigeria, le plan de rénovation de Port-Harcourt a été rendu public. Au Pakistan, l'ONU a récompensé Asma Jahangir pour sa contribution aux droits humains. En Égypte, Karim Amer a été libéré. C'était un blogueur qui avait été arrêté. On avait fait tourner pas mal de pétitions. Plein de bonnes nouvelles passées, malheureusement, mais la France, sur le retour des pays sûrs et pas sûrs, sur la révision de la liste française des pays d'origine sûrs, qui porte à 17 le nombre d'États concernés. Et Amnesty s'est rapidement mobilisée avec succès pour le Conseil général revoit la copie de l'OFPRA. Au Mexique, Raúl Hernández, qui a été libéré également. Rejet du projet de mine de Vendetta par le gouvernement indien, qui constitue une victoire pour les droits des peuples indigènes au mois d'août 2010. La Turquie qui met fin aux poursuites judiciaires contre des manifestants mineurs au nom de la législation antiterroriste. Les États-Unis, adoption d'une loi historique portant sur la violence sexuelle contre les femmes autochtones. C'est une grande avancée également. Libération aussi du prisonnier d'opinion qui avait été incarcéré en Indonésie, qui avait osé lever un drapeau et hisser l'étoile du matin, emblème de l'indépendance papou. Il avait été condamné à 10 ans de prison et il a été libéré. Au Mexique, libération de 12 prisonniers politiques. En Argentine, légalisation du mariage entre personnes de même sexe en juillet 2010. En France, l'interdiction de financement des bombes à sous-nutrition. À sous-munition, n'importe quoi.
Sous-munition.
Donc, grande avancée. L'Équateur, premier pays à ratifier de nouveau le mécanisme de l'ONU pour l'application des droits économiques, sociaux et culturels en juin 2010 également. À Bahreïn, l'Institution nationale des droits humains renforcée. Et en Colombie aussi, ça c'est une grande avancée, en juin 2010, la condamnation d'un officier supérieur de l'armée colombienne, condamné pour des disparitions. Il avait été condamné à 30 ans de prison pour la disparition de 11 personnes en novembre 1985 lors d'une prise d'otage dans le palais de justice de Bogota, qui avait fait plus de 100 morts. Avec cette décision inédite, c'est une première quand même, des familles de victimes qui réclament justice depuis près d'un quart de siècle, commence à briser le silence qui protège les responsables depuis si longtemps. Donc, grande avancée encore. En Turquie, des fonctionnaires condamnés pour la mort d'un militant. Pareil, c'est une première. À la suite d'un déboulement meurtrier, les responsables de la ville, du Caire, ont été aussi jugés, déclarés coupables, etc. etc. On a beaucoup de... pas assez par rapport à toutes les défenses que nous avons, à tous les lieux où les droits de l'homme sont bafoués en permanence, à toutes ces personnes qui sont incarcérées, mais bon. Donc n'oubliez pas, continuez à signer les pétitions, à les soutenir, parce que nos signatures ont du pouvoir. D'ailleurs, Didier va nous donner les adresses des sites où vous pourrez aller allègrement, lorsque vous avez du temps à perdre, venir soutenir.
C'est pas du temps à perdre.
Non, mais lorsque vous avez un petit peu de temps, venez soutenir tous ces gens, tout ce monde qui est oublié, qui est détenu dans des pays où...
Je sais pas si je vais le dire, parce que j'ai plus le droit de la parole. J'ai mangé tout mon crédit. Non, donc, un petit rappel, effectivement, on a ouvert notre site internet, c'est un tout début pour l'instant, il sera évidemment amélioré, complété, etc. dans les mois qui viennent. On l'a quand même ouvert grâce à l'aide du Conseil Général et du département Euraso. Donc, pour s'y connecter, www.euraso.web/amnesty-evreux. Si vous ne vous rappelez pas de tout le nom, ce n'est pas grave, vous allez sur le site Euraso, donc www.euraso.fr, et vous tapez sur la page d'accueil Amnesty, vous allez tomber directement sur notre site. Donc vous avez effectivement un résumé de notre action, un résumé de bonnes nouvelles, un résumé des actions en cours auxquelles on vous enjoint à participer, ainsi que nos coordonnées et plein d'informations à venir par la suite. Donc voilà, www.eurasso.fr/web/amnestyevreux et on vous rappelle notre email amnesty.evreux@gmail.com. Il nous reste à souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année parce qu'elles ne sont pas finies à tous nos auditeurs.
Bonne fête de fin d'année.
Allez, une bonne fin d'année à tous.
Tous nos voeux pour l'année prochaine, tous nos voeux militants, tous nos voeux de réussite dans tous vos projets. Et puis, on se termine par un petit morceau musical que Mina nous avait choisi.
Le petit soldat des fils de Tepu.
Alors, je vais essayer de ne pas me tromper dans les micros. Hop.
Change un bonhomme, petit soldat, il va pas sinon.
Tu vas comprendre ce que ça veut dire de faire du camping sauvage. Tu vas comprendre ce que ça veut dire de faire du camping sauvage.
Là-bas tu vas violer tes femmes et des enfants. Là-bas tu vas griller tout un tas d'innocents.
Tu vas comprendre ce que ça veut dire.
Un barbecue géant.